deuxième espace est encore plus intéressant. C'est un espace collatéral. Cet espace collatéral nous fait passer de la stéréotypie à la création. Il montre aussi la jonction entre l'ensemble des discours, qu'il s'agisse de discours théoriques, de discours littéraires, artistiques, scientifiques. Dans un énoncé, selon Foucault, dit Deleuze, un énoncé produit ses places de sujet et d'objet. Vous vous souvenez qu'avec la critique de l'auteur, on avait cessé de penser la personne comme sujet souverain, articulant son discours et la déposant dans la matérialité du livre. En réalité, dit Deleuze, ce qui fait que Foucault est intéressant, là où Foucault transforme l'image de la pensée, dit Deleuze, mais ça s'applique également parfaitement à la façon que Foucault a de penser aussi le changement d'une époque, d'une génération, on peut découper comme on veut. Un discours produit ses places de sujet et d'objet comme ses dérivés. Et là, on peut l'expliquer très simplement en montrant qu'au fond, c'est une application au fait littéraire de ce que Bachelard appelle le fait théorique. C'est exactement de même que lorsque vous êtes physicien, vous êtes obligé de monter une expérimentation pour valider votre théorie, mais que, évidemment, votre théorie ne se trouvait pas déjà enclose dans la réalité matérielle, attendant un heureux hasard pour être découvert par le savant. Exactement de même, ce que dit le livre, les objets dont il parle, exactement comme le sujet énonciateur qu'il est en train de créer et le lecteur qu'il produit, est contenu par le type d'agencement d'énoncé que le livre contient. C'est donc non pas un sujet humain qui écrit un livre, mais au contraire, un objet discursif comme le livre et qui produit le type d'expérience auquel il renvoie, le type de subjectivité de lecteur et d'auteur nécessaire pour entrer dans ce type d'expérience et le type de concept qui est requis pour faire, pour articuler cette subjectivité, résultat, et cette objectivité, également résultat. On a là absolument quelque chose qui est une compréhension transcendantale de la lecture. J'utilise ce vocabulaire conscient, on peut se passer aisément, mais je veux dire simplement que là, on explique comment, dans le livre, dans l'écrit, vous avez la condition de possibilité du type de sujet pensant et du type d'objet dont il est question. Et vous le voyez bien que si je compare devant vous Aristote rapidement et Platon, vous voyez bien qu'ils ne parlent pas des mêmes objets. Je prends mes exemples en philosophie, excusez-moi, mais vous voyez, on n'est pas dans le même monde. On n'est pas dans le même monde, on n'est pas dans la même conceptualité. Donc, espace collatéral. Et le troisième espace est encore plus intéressant, enfin, si je peux dire, ils sont tous aussi intéressants, c'est l'espace complémentaire. L'espace complémentaire articule, et ici, Deleuze, il écrit en 86, il fait une sorte d'arc dans l'œuvre de Foucault, articule l'énoncé au non-discursif. Et dit Deleuze, c'est une théorie pratique des multiplicités, il veut dire par là, la pensée, dans son livre, dans l'objet matériel. Vous savez qu'on est en contact avec la pensée que de façon matérielle, par la parole, par la lecture. Donc la pensée, dans son agencement matériel, est indissociable toujours de ses conditions politiques, pragmatiques, matérielles, d'énonciation. Et on a là quelque chose de passionnant également, parce que du coup, ça ouvre sur ce que Deleuze lui-même appellera la théorie de l'agencement. Ça ouvre aussi sur, disons, le rapport entre discursif et non-discursif dans l'œuvre de Foucault, mais puisque le temps presse encore, je vais terminer en vous expliquant comment Deleuze et Guattari reprennent ces éléments au début de Mille Plateaux, dans un texte qui est très connu, le rhizome, pour en faire une théorie de la lecture. En deux mots, le rhizome est une théorie de la lecture à deux égards, ou peut-être à trois égards, parce que c'est une théorie où c'est un texte, si vous voulez, où Deleuze et Guattari reviennent sur cette machine d'écriture à deux qu'ils viennent d'inventer et qui, elle aussi, est une suite de la dissolution de la notion d'auteur. Bon. Ils viennent de publier l'Anti-Œdipe. Ils ont écrit en 1975 un livre sur Kafka. Ils publient Rhizome en 1976. Et là où Kafka était, si vous voulez, une pratique d'une lecture littéraire, Rhizome en donne le mode d'emploi théorique. Et de manière assez ludique, il développe une distinction entre une pensée statique et figée, qui s'appelle la pensée de l'arbre, qui est une critique du structuralisme, en particulier de la linguistique de Chomsky, pensée qui pense par dichotomie et par paire binaire, par opposition statique, ceci, cela, les hommes et les femmes, les blancs et les noirs, etc., à une pensée qu'ils appellent rhizomatique, bon, on connaît bien ces choses-là, c'est-à-dire une pensée par racine. Et alors, l'idée, en fait, si vous voulez, on peut très facilement schématiser cette idée-là et leur rétorquer immédiatement pardon, à nos deux compères que c'est bien joli de dire qu'il ne faut pas de dualisme, mais c'est quand même un petit peu extravagant de dire qu'il ne faut pas de dualisme, et donc que dans cette pensée non-dualiste, on va opposer rhizome et arbre. Vous voyez bien que... Bon. Ça, c'est le problème de toute critique philosophique du dualisme, à savoir, vous êtes bien embarrassé pour critiquer le dualisme, puisque vous êtes forcément dualiste en disant « méchant dualiste, moi je suis moniste ». Donc vous êtes dualiste. Problème théorique, qui n'est pas insoluble, et dont justement se trouve un élément de solution dans Rhizome. Et donc, au lieu de somnubiler sur arbre ou rhizome, lisons donc les six principes du rhizome que, de façon ludique, Deleuze et Guattari propose dans ce texte. Il y en a six. C'est facile, c'est pédagogique. Bon, c'est un petit peu, même, un peu potache. Il y en a deux premiers, ensuite il y en a un et un séparés, et ensuite il y en a encore deux derniers. Les deux premiers s'appellent principes 1 et 2 au pluriel. Le troisième et le quatrième sont singuliers, et le quatrième et le cinquième sont au singulier, couplés. Vous avez là une espèce de palette de l'ensemble des formes de dualité possibles. Le premier et deuxième principe au pluriel s'appelle principe de connexion et d'hétérogénéité. Je vais revenir là-dessus tout de suite. Le deuxième principe, non, il n'y en a pas, le troisième principe, le premier et deuxième, connexion et hétérogénéité. Troisième principe, multiplicité. Le quatrième principe, rupture insignifiante, c'est très mystérieux. Et cinquième et sixième principe, principe de décalcomanie et de cartographie. J'en viens à ce que j'avais proposé tout à l'heure, à savoir une définition de la cartographie. Commençons par les deux derniers parce qu'ils sont plus faciles. Décalcomanie et cartographie. Vous avez là à la fois quelque chose qui énonce un rapport entre théorie et pratique, qui n'est pas de l'ordre de la décalcomanie. La théorie ne flotte pas comme un nuage transparent au-dessus des réalités empiriques. Par conséquent, impossible d'en faire un relevé qui est un relevé du type du relevé de contour. Au contraire, ça permet aussi une théorie de la lecture, le relevé est toujours du type d'une cartographie, c'est-à-dire de quelque chose qui, en même temps qu'il effectue la carte d'un espace, le parcourt, le traverse, c'est-à-dire le modifie. On est donc dans une interaction entre la pensée et sa zone d'individuation d'expérience, et c'est valable à la fois pour les objets que nous pensons, comme c'est valable pour la manière dont nous cherchons à expliciter des procédures de pensée quand nous travaillons sur un auteur. Nous sommes toujours dans la décalcomanie, et jamais, comme nous le souhaiterions parfois, dans la décalcomanie, nous ne racontons pas ce que Deleuze a dit. Comprenez bien, là, malheureusement, ce n'est que moi qui vous parle, et donc je cartographie Deleuze devant vous, ce n'est pas Deleuze qui parle, mais moi, il y a donc toujours cet écart, cette différence. Autrement dit, la réalité cartographique de la pensée fait que nous pouvons parfois avoir des éléments, des zones décalcomaniaques, nous les avons, souci d'authenticité, souci d'exactitude, etc. Et cette décalcomanie, à prendre au sens psychiatrique du terme, ne signifie pas que nous allons atteindre la vérité, mais elle signifie qu'il faut toujours penser ensemble des moments où la pensée procède en arpentant son territoire et des moments où la pensée cherche à relever avec exactitude une zone de savoir plus figée. Il ne s'agit donc pas d'opposer comme deux méthodes, une bonne et une mauvaise méthode cartographie et décalcomanie, mais il faut les penser ensemble, en pensant qu'au sein de la cartographie, des zones de décalcomanie sont inévitables et prospectives. Ça me permet de revenir sur mes deux premiers principes. En effet, si vous opposiez décalcomanie et cartographie de manière binaire, vous ne seriez pas dans cette logique du rhizome. Donc, c'est ce qui explique très bien la première paire. La première paire énonce principe de connexion et d'hétérogénéité. C'est une théorie de la lecture. C'est une théorie de l'écriture. C'est une théorie de la pensée. Connecter ne signifie pas, une théorie de la synthèse, connecter ne signifie pas mettre ensemble des éléments séparés et produire une unité plus haute, comme dans une Aufhebung hegelienne. Connecter, au contraire, signifie produire une hétérogénéité. Autrement dit, c'est dans l'acte de connecter que vous produisez quelque chose de nouveau. Autrement dit, c'est lorsque vous pensez à une référence ou à une citation en train de lire un texte que vous produisez quelque chose qui est une zone de transformation possible de ce texte. C'est comme ça que le commentateur, exactement comme l'écrivain, c'est comme ça que le philosophe, mais également l'historien, transforme la manière, la matière dont il essaye de rendre compte lorsqu'il pense. Lorsque nous pensons, nous connectons, mais nos connexions produisent de la différence. C'est la raison pour laquelle le troisième principe s'appelle un principe de multiplicité, de le distingue de multiplicité, une multiplicité quantitative, où vous auriez comme dans un sac des éléments qui sont des éléments unitaires. Alors évidemment, il ne veut pas de cette multiplicité-là, type poignée de gravier, si vous voulez. Vous ne pouvez pas penser le multiple comme une poignée de gravier. Donc vous ne pouvez pas penser, par exemple, la présence des auteurs externes, Simondon, Geoffroy Saint-Hilaire, Hamlet, à l'intérieur d'un texte comme des grains externes dont il faudrait pouvoir retrouver la zone d'origine. La multiplicité ne doit pas se comprendre comme une collection d'unités stables. La multiplicité doit se comprendre comme une collection d'éléments qui eux-mêmes n'ont pas d'unité, mais sont dans un état qui est un état de transformation, de devenir. Vous pensez la multiplicité aussi comme quelque chose qui n'est pas de l'ordre du quantitatif, mais de l'ordre du qualitatif.